Hashem. On va commencer Bezrat Hashem, la lettre 26. Donc, on aime bien ce chiffre 26. Je pense que c'est une lettre qui est particulièrement importante. C'est une lettre dans laquelle Admor HaZaken va nous expliquer l'importance du Zohar. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Très souvent dans le monde juif, on a l'impression qu'il y a comme deux courants. Il y a le courant de ceux qui sont plus liés, on va dire, à la halakha, à l'aspect technique de la Torah. Et il y a ceux qui sont plus attirés par le Zohar, par l'aspect pensée juive. Et la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est le Zohar? Qui l'a écrit? Pourquoi il l'a écrit? Quel est le but de ce livre? D'accord? Quelle est la différence entre le Zohar et la Gemara? Et qu'est-ce que le Zohar pense de lui-même? C'est-à-dire qu'en grande partie de ce cours, ça va être des textes du Zohar lui-même.
Zohar et Kabbalah, c'est la même chose. Zohar et Kabbalah.
Zohar et Kabbalah, c'est la même chose. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans le, Donc, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est le Zohar, et surtout, qui peut apprendre le Zohar, quand on doit apprendre le Zohar. D'accord. Aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il y a un engouement, il y a des gens qui veulent apprendre le Zohar. Qu'est-ce que la Torah en pense de ça? Est-ce qu'il faut apprendre le Zohar? Est-ce qu'il ne faut pas apprendre le Zohar? Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? D'accord. Il faut une maturité. Bonsoir. Il faut une maturité. C'est vrai qu'il faut une maturité. Mais concrètement, on voit que, qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cours qu'on fait, par exemple, on étudie actuellement le Tanya. On voit que le Tanya, c'est quelque part, très souvent, c'est des textes du Zohar qui sont adaptés, qui sont mis au niveau de tout le monde. D'accord? Mais c'est du Zohar. Bonsoir. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la Torah pense de tout ça? Qu'est-ce que la Chassidoute pense de tout ça? Et comment on doit s'y prendre par rapport à ça? Est-ce qu'on peut étudier le Zohar? Est-ce qu'on doit étudier le Zohar? Est-ce que c'est... Alors, on va voir ce que le Zohar dit. C'est un texte très important qu'on va lire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans ce texte, l'Admor HaZaken va nous commenter une partie du Zohar. Pourquoi c'est très important de ce texte-là? Parce que dans cette partie du Zohar qu'on va étudier, on va avoir l'impression, et il y a des gens qui ont compris comme ça, que celui qui étudie le Zohar, il n'a pas besoin de suivre la halakha. Vous allez voir, c'est un texte qu'on va lire ensemble, on va le lire, ça va être de l'araméen. On va le lire, on va le traduire. Et a priori, on va voir qu'il y aura des choses bizarres dans ce texte. Dans lequel, apparemment, le Zohar va nous parler de choses qui laissent entendre que celui qui suit le Zohar n'a pas besoin de faire certaines mitzvot. Donc on va se poser la question, comment on peut expliquer ça? Bien entendu, je vous rassure, d'accord, bonsoir. Bien entendu, je vous rassure, quand on va finir ce cours Bezrat Hashem, on comprendra ce que le Zohar voulait dire. Mais déjà, on va voir ce que le Zohar dit. D'accord? Alors, on y va. Je suis à la page 200, on a dit 283. Raya Memena Parashat Naso. Une des parties du Zohar s'appelle Raya Memena. Dans la partie, donc Raya Memena, c'est une partie qui vient, qu'on a titre depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Bonsoir. C'est un berger fidèle. Donc, Raya Memena Parashat Naso. Dans Raya Memena et la partie du Zohar dans Parashat Naso, il dit sur le pasouk là-bas, Ve'amaskilim Yaskilu Ke Zohar Arakia. Là-bas, c'est écrit que ceux qui sont intelligents, ils vont réussir à briller, d'accord? Comme le firmament va briller. Vous remarquez ici que quel terme il emploie ici pour dire briller? Il emploie le terme Zohar. Parce qu'en hébreu, Zohar, ça veut dire quoi? Ça veut dire briller. Donc ça, c'est déjà la première chose. On a dit qu'aujourd'hui, on va parler du Zohar. Surtout, on s'approche bientôt de l'Akba Omer. J'espère que pour l'Akba Omer, si tu veux, on aura fini cette lettre. Pour comprendre qu'est-ce que c'est le Zohar. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait avec ça?
On a une lumière déjà ce soir.
On a une?
Une lumière déjà ce soir.
Une lumière?
Agatmo.
Ah, alors. Donc,
il y a Marloquet.
Pourquoi Marloquet?
Le débat pour moi.
Donc, on a, donc déjà, la première chose, on parle du Zohar. D'accord? C'est quoi le Zohar? Le Zohar, c'est, on a dit, le mot Zohar en hébreu veut dire celui qui éclaire, la clarté, celui qui brille. On dit que Zohar Arakia, comme le ciel, il brille. Ça s'appelle le mot Zohar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, un premier but qu'on va expliquer aujourd'hui, le but du Zohar, c'est pas de développer des nouvelles halakhot. Bonsoir. Le but du Zohar, c'est de faire briller la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de qualités qu'on a en nous, il y a beaucoup de qualités qu'il y a dans la Torah, mais que nous-mêmes, on ne sait pas. Imaginez, je vais vous donner un exemple. C'est comme si, par exemple, j'ai des qualités en moi, mais je ne les connais pas. Alors, je vais aller voir un coach. Ça existe encore un coach, je disais, d'accord ? Je vais aller voir un coach, de plus en plus. Et le coach, il ne va pas faire les choses à ma place. Sinon, ce n'est pas un coach. D'accord ? Le coach, il va m'expliquer, il va réussir, il va m'aider à développer, à faire briller des qualités que j'ai en moi. Mais il va rien rajouter de nouveau. Il va simplement me montrer ce que j'avais déjà, mais que je ne savais pas que j'avais. Ok ? Il va révéler. Alors, si ça vous dérange pas, je vais suivre ensemble. Désolé, on n'a pas... Alors, de toute façon, il y aura beaucoup à l'oral aujourd'hui. Et donc, on explique que c'est ça le Zohar. C'est quoi le Zohar ? Le but du Zohar, c'est pas de rajouter des nouvelles à la halakhot. Le but du Zohar, c'est de faire briller la Torah. Ça veut dire qu'on avait déjà la Torah, on avait déjà les mitzvot, on avait déjà les halakhot, on connaissait déjà tout ça. Et le Zohar, il va venir, il va te faire briller la Torah pour te montrer que dans cette Torah que tu croyais avoir compris, en vérité, il y a des secrets extraordinaires. Ok ? On va essayer de développer maintenant. Alors, on va voir maintenant dans Parashat Nasso ce que le Zohar dit sur le commentaire du Zohar. Ça veut dire que c'est assez rare. C'est un texte qui est assez rare parce que c'est rare que les gens ils parlent sur eux-mêmes. Donc là, on a un texte dans le Zohar et le Zohar il parle du Zohar. Il explique pourquoi le Zohar est important. Regardez bien. Alors accrochez-vous parce que chaque mot qu'on va dire ici, d'accord, on va rien comprendre, mais après on va comprendre. Voilà, je vous rassure. On finira par tout comprendre à la fin de la lettre. Je pense qu'on aura 3 à 4 cours sur cette lettre.
Bon, on peut voir la fin alors.
Ah non. Si tu feras la fin sans début, tu comprendras pas.
On va sortir des lumières.
Voilà ce que dit le Zohar. Le Zohar dit Be'ai Chibura Dilach, avec ce livre. Donc quand on parle de ce livre, le livre du Zohar, de Iou Sefer HaZohar, que c'est le livre du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Min Zahara de Ima Ila'a Teshuva. C'est une clarté qui amène une telle teshuva. Be ilen lotsarich nisayon, une teshuva par laquelle il n'y aura pas besoin d'épreuve. Alors j'explique ce qui veut dire le Zohar là-bas. Là-bas, dans le Zohar, il explique que plus on va s'approcher de Mashiach, et plus Akadosh Baruch Hu va éprouver. Qui va éprouver? Il va éprouver particulièrement les juifs religieux. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu va faire un tri. Écoutez bien, c'est très dur ce qu'on va dire maintenant. Il va faire un tri, comme, alors l'exemple qu'on donne là-bas, c'est comme, comment on appelle ça? Le creuset. Vous savez, le creuset pour, où on travaille l'or. D'ailleurs, on enlève les poussières. Et là-bas, il dit comme ça. Il dit qu'avant que Mashiach va venir, Dieu va nous éprouver. Il va nous éprouver dans la Torah et les Mitzvot. La Torah et les Mitzvot vont devenir très difficiles. Et le Zohar dit que quand on sera dans cette période, donc on est en plein dedans maintenant, la seule manière, écoutez bien ce qu'on va dire, d'accord, la seule manière de tenir, la seule manière de ne pas être éprouvé dans le sens qu'on tient aux épreuves, c'est d'étudier le Zohar. Ou bien des textes comme ce qu'on étudie maintenant qui sont basés sur le Zohar. On va lire ensemble dans les mots, vous allez voir que le Zohar dit très clairement que avant Mashiach, celui qui ne voudra pas étudier les textes du Zohar, celui qui dira c'est pas pour moi, moi je me débrouille qu'avec la halakha, celui-là il va tomber dans le panneau, c'est sûr.
C'est quoi le panneau?
D'accord? Le panneau, ça veut dire qu'il tiendra pas dans ses mitzvot. Ça veut dire que, avant, il fut un temps où on pouvait se suffire d'un judaïsme sec. Sec dans le sens que, on avait des halakhot, le Shulchan Aruch, fais ci, fais pas ça, on étudie la Gemara t'explique de qui on a appris, d'où on a appris, de quel pasouk, mais moi j'appelle ça un judaïsme sec. Pourquoi c'est un judaïsme sec? Parce que c'est un judaïsme technique. Tu rentres pas dans les détails, dans le pourquoi, du comment, dans l'aspect ésotérique, dans ce qu'il y a derrière les coulisses. Dans le temps, c'était pas nécessaire. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. On expliquera plus tard. Mais ce que dit le Zohar, c'est un grand scoop, ça. Il dit que plus on s'approchera de Mashiach, et plus on aura l'obligation d'avoir la chassidut. Et donc, la chassidut, c'est le Zohar, vérité. Quand? Après le Zohar, il y a plusieurs variantes. Il y a eu la chassidut, il y a eu d'autres aussi, des approches qui ont récupéré le Zohar. Mais on sera obligé de passer par le Zohar. Et c'est les mots du Zohar. Il dit, ceux qui passeront par le Zohar, ils ne seront pas éprouvés. Dans le sens que quoi? Dans le sens que eux, ils arriveront à rester dans le bon côté. Ou begin, puisque d'atidin Israël mitam ilana dechaye, puisque Israël vont goûter de l'arbre de la vie, le Zohar est appelé l'arbre de la vie. Vous savez, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y avait 3 arbres. Il y avait l'arbre de la vie, l'arbre de la mort et l'arbre de la vie et de la mort ensemble. D'accord? On est d'accord? L'arbre de la mort, ça c'est l'arbre qui amène la mort, ça c'est clair. L'arbre de la vie, c'est l'arbre qui t'amène la vie. Et il y a l'arbre qui est au milieu, c'est quoi? C'est l'arbre qui peut t'amener soit la vie, soit la mort. Par exemple, le fruit que Adam Arishon a mangé, de quel arbre d'après vous il faisait partie?
Et de la vie.
La vie, la mort, ou les deux, ou celui qui est des deux.
Les deux.
Hein?
Il y a aucun des
deux. De la mort.
La mort, parce qu'on a connu la mort à cause de ça.
Moi, je dis les deux.
C'est les deux. Vous savez pourquoi? Très simple. C'est très simple. Parce qu'en vérité, Adam Arishon n'avait pas le droit de manger cet arbre-là, du fruit de cet arbre, seulement pendant 3 heures. Les gens ne savent pas ça. Seulement pendant 3 heures jusqu'à Shabbat. Et dès que Shabbat allait arriver, il aurait pu sans problème manger ce fruit. D'accord? C'est ça l'épreuve, l'épreuve du Yetzer Hara. Ok? Donc, le fruit, plus tard, il serait devenu permis.
Il le savait qu'il avait une deadline à 3 heures ou non?
Oui, bien sûr qu'il le savait.
Ah bon, on peut le savoir. Ah d'abord, on va savoir ce qui s'est passé.
Dis pas Ahmar, tu descends de lui.
C'est chaud, Ahmar. Je suis désolé.
Il y a l'enfant, touche pas, c'est chaud.
Alors, justement, attends, on va développer. Doucement.
Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas vrai, le Zohar al-Kabbal?
C'est la même chose?
Ah bon?
On va expliquer?
On a besoin de dire les Chaïm pour étudier le Zohar.
Oui, bien sûr.
Tu veux mettre de l'eau dans ton gaz?
Ok.
Pourquoi vous demandez les excuses? Pourquoi on a un café?
Si vous
je sais pas, je vois. Hein? Un café.
Alors, hein? Non, c'est bon, ça va. Donc il dit comme ça. Il dit Ubegin de Atidin Israël, le mitam meilana de Chaye. Que puisque Israël va goûter de l'arbre de la vie, c'est quoi l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, on a dit, c'est le Zohar, des Iou, Aï Sefer HaZohar, que c'est le livre du Zohar, Ifkun min be min galuta berachamim. Que grâce à l'étude du Zohar, on sortira de l'exil berachamim avec la miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'étude du Zohar, on va réussir à tenir dans les épreuves qu'il y aura avant Mashiach. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement voyant. On le voit devant nous, devant nos yeux, que plus on avance dans la génération, et plus les épreuves deviennent difficiles, et plus les moyens conventionnels ne marchent plus. J'explique. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, imagine-toi que ton fils ne veut pas venir à la synagogue. À l'époque, dans le temps, comment ça se passait? Tu le venais, tu lui dis, écoute, non, pas très rare. Tu viens, tu lui dis, écoute, voilà, on ouvre le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, il faut aller à la synagogue. Eh ben, ça suffisait, il allait à la synagogue. Ah oui, bien sûr. Comment on a vécu pendant 2000 ans? Comment on est là aujourd'hui? Oui, ça veut dire que ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin. Ça veut dire que tu leur disais la halakha, éventuellement on apprenait un peu de gemara autour, ça suffisait.
Tu vois bien, quand on parlait,
d'accord?
Tu disais pas peut-être, tu venais tout de suite.
Merci. Oui, c'est vrai, je
leur montre l'heure, ils n'avaient pas besoin d'un mécanisme.
Alors,
aujourd'hui, il y a des gens qui ils suivent les règles d'une entreprise à la règle de comptabilité et ça.
Et le reste de la religion,
ils ont une facilité à faire
aussi que moi.
Tu leur dis, c'est bien, tu fais ça.
Donc tu veux dire que maintenant, si quelqu'un veut. Faut qu'il arrête d'étudier la chote et qu'il utilise le genre.
J'ai pas dit ça. Ah, voilà. Et donc j'attendais cette réaction.
Excuse-moi, répète.
Ah, bah oui, vas-y, répète.
D'après moi je comprends, c'est-à-dire que j'arrête d'utiliser la chote et je vais utiliser les Zohar.
C'est mieux,
mais l'un va avec l'autre. À mon avis, l'un va avec l'autre.
Mais non, c'est plus rentable.
Non, mais ça, je mets le bas. Il y a des sujets qui utilisent pas Zohar.
Non,
mais les à la chote, c'est trop long aussi.
Oui, j'ai pas dit ça.
Les à la chote, je les connais, c'est comment tu veux les appliquer.
Mais le Zohar, c'est un livre, c'est plusieurs livres.
Alors, bonne question. D'abord, le livre du Zohar que vous avez à la maison, j'espère que vous l'avez à la maison parce que c'est vraiment une ségoula. Le livre du Zohar que vous avez à la maison, en vérité, c'est une compilation de plusieurs parties de la Kabbalah. C'est une compilation qui a été faite par les imprimeurs. C'est-à-dire que le Zohar, à la base, c'est pas un monsieur qui est venu et qui a écrit un livre de 3 tomes. Ah. Déjà, vous voyez. Donc, c'est pas ça. C'est une compilation qui a été faite par les imprimeurs. Mais par contre, on sait que tout ce qui est écrit dedans, c'est vrai. Ça, on le sait. Maintenant, le fait de le classer dans les parachas, etc., ça, c'est pas forcément que ça a été par Bichon Bar Yochai. Le classement. La Torah, le classement était fait par un Kadosh Baruch Hu. Shit, Shemot, etc. Ça, c'est par un Kadosh Baruch Hu. Mais le Zohar, non. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que dit le Zohar?
On ne met pas un rabbin, un auteur ou un rabbin derrière le Zohar.
Est-ce qu'on ne met pas?
Parce que moi, j'achetais il y a 10 ans ça des Zohar. Après, c'était des trucs.
Berg.
Voilà, mettez-vous, il y a aussi des Zohar mythos.
Non, c'était pas mytho, il y avait des fautes dedans.
Il y avait des quoi?
Il y avait des fautes.
Pourquoi?
Mais ah bon, ouais, parce qu'ils ont vendu le Zohar en propre part.
Oui, ça va.
Et il y avait une série qui avait une faute.
Une faute, c'est-à-dire quoi une faute?
Il y avait une faute dans les textes.
Ah bon?
Bon.
Et non, mais sans enlever la cache.
Moi, comment s'appelle le.
De toute façon, si tu le Zohar à la maison, tu ne l'ouvres pas. Parce que tu ne peux pas le comprendre. Pour des raisons X ou Y.
Oui.
Tu ne sais pas le lire.
À quoi ça sert?
Est-ce que ça reste quand même ces goûts-là?
Le Zohar, c'est même bracha à la maison.
Ça veut dire quoi, Kabbalah?
La Kabbalah, c'est la même chose que le Zohar. Kabbalah, ça veut dire ce qu'on a reçu de nos maîtres. C'est le sens profond.
Mekabel.
Parce qu'en vérité, toutes ces choses-là, c'est des choses que...
Et moi j'avais toujours entendu que le Zohar on pouvait
pas
l'utiliser seul, on pouvait l'utiliser le 40 ans et en ayant t'arrives à comprendre.
Donc ça c'est ce que nous dit le Zohar, d'accord, vous inquiétez pas, on va développer progressivement. D'abord on va expliquer qu'est-ce que dit le Zohar. Le Zohar nous dit que avant l'époque de Mashiach, comme on a dit, on va passer par une période dans laquelle il y aura beaucoup d'épreuves. Le Zohar appelle ça Purkana Batraïta. Purkana Batraïta, ça veut dire la dernière ligne droite. Dernière ligne droite, il y aura des épreuves. Des épreuves que on pourra pas tenir avec les méthodes conventionnelles. On sera obligé de faire appel à des méthodes non conventionnelles. C'est quoi les méthodes non conventionnelles? C'est le Zohar. Pourquoi j'appelle ça des méthodes non conventionnelles? On expliquera plus tard dans la suite du cours Bezrat Hashem qu'il fut un temps où même les Chachamim n'étudiaient pas le Zohar. Il y avait que quelques personnes triées sur le volet dans la génération, d'accord, qui se passaient de maître en élève, quelques personnes triées sur le volet qui étudiaient, et il fut un temps à l'époque de la Gemara, dans lesquels il y avait une majorité de Chachamim qui ne savaient même pas qu'un concept comme le Zohar existait. Vous me suivez?
Pourquoi?
Parce que le moment n'était pas arrivé. Parce qu'en vérité, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que le Zohar, c'est un avant-goût de ce qu'on va comprendre quand Mashiach viendra. Quand Mashiach viendra, on comprendra tout le dessous de chaque chose, derrière les coulisses. Normalement, aujourd'hui, on n'aurait pas le droit d'avoir ni le Zohar, ni la Chassidoute, ni rien de tout ça. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Comme il sait que les dernières générations avant Mashiach, c'est les générations dans lesquelles on aura beaucoup de mal à tenir avec les méthodes conventionnelles. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est le Harizal qui dit ça, comme on va développer tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau au Bnei Israël. Il leur a donné un avant-goût avant Mashiach, quelques siècles avant Mashiach, pour leur permettre de tenir les siècles qu'il y aura avant Mashiach. Donc d'où, ça veut dire que quand on vient à un cours de Tanya, c'est vraiment très 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 important. Et d'ailleurs, on le sent qu'il y a une doucha particulière, on le sent tout de suite, on le sent. Même si des fois, vous voyez, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent des fois au cours de Tanya, ils disent, bon, on vient, mais on sent qu'il y a quelque chose, mais on comprend pas spécialement, on comprend pas tout. Là, ce qu'on va expliquer en vérité, c'est que le Zohar, c'est pas seulement pour comprendre. Ça, pour comprendre, tu as la Gemara pour comprendre. Pour comprendre, tu as la Halakha pour comprendre. Le Zohar, c'est plus que ça. Le Zohar, c'est pour te donner des forces, pour tenir, surtout à la fin de la galoute, à la fin de l'exil dans lequel on se trouve maintenant. Donc ça, c'est le Zohar qui dit lui-même sur ce commentaire. Il dit, Veitkayem banu, Hashem badad yanchenu, ven imo el nechar. Donc on a dit deux choses. Grâce au Zohar, qu'est-ce qu'on a expliqué? Grâce au Zohar, on ne passera pas par des épreuves. Ça veut dire, en tout cas, on sera protégé de la dernière épreuve de la fin des temps. Numéro 1. Numéro 2, c'est expliqué ici. Grâce au Zohar, les Béné Israël pourront sortir de l'exil par miséricorde. On va développer ça plus tard. Numéro 3. Bitkayem banu, behon, Hashem badad yanchenu, ve'en imo el nechar. Que c'est Hashem tout seul qui va nous conduire, ve'en imo el nechar, et il n'y aura pas avec nous, le pasouk qui dit, c'est Hashem tout seul qui nous conduire, et il n'y aura pas avec nous de Dieu étranger. Alors ça veut dire quoi qu'il n'y aura pas chez nous de Dieu étranger? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, c'est écrit que quand Mashiach va venir, dans l'époque pré-messianique, il y aura deux options possibles. Première option, c'est que Israël ira à la Géoula, mais il sera accompagné par les nations. Ça veut dire que c'est les nations qui amèneront Israël vers la Géoula. La Géoula, c'est la libération, c'est Mashiach. C'est-à-dire que c'est les nations qui progressivement pousseront Israël vers l'avènement messianique. D'accord? C'est pas forcément notre bien, ça.
Comment?
Faut croire comment? Bah, comment? C'est-à-dire, par exemple, t'as un pays comme, imagine-toi, par exemple, un pays comme les États-Unis, qui va nous pousser à construire la terre d'Israël, et qui va nous pousser progressivement à faire teshuva, qui va nous pousser, les nations vont nous pousser à avancer dans notre travail.
Comment un goy, il peut te pousser, ça?
Est-ce qu'on y est ou pas?
Ça fait 2000 ans qu'ils nous font chier.
Alors, bonne question. D'accord? C'est écrit que si on étudie la Chassidoute, si on étudie le Zohar, on aura le Srout que c'est Hachem qui nous prendra en personne par la main, entre guillemets, on n'aura pas besoin de passer par les nations, on n'aura pas besoin que les nations nous fassent souffrir. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, parce que vous savez, quand on dit quand on parle de Mashiach, on dit qu'il y a plusieurs options possibles. Soit ça viendra par une guerre, ça viendra par une guerre. Ça veut dire qu'il y aura la guerre de Gog et Magog, et on aura des pays qui voudront nous détruire. Donc comme il a dit Yosef, bon, je vais pas employer le même terme, mais ça veut dire qu'en vérité... Hein,
c'est qu'une option.
C'est une option.
C'est qu'une option.
C'est qu'une seule option.
D'accord.
L'autre option, c'est quoi?
C'est pas définitif.
Pas du tout. L'autre option, c'est qu'on soit méritant, d'accord? Et que Akadosh Baruch Hu, il nous enverra Mashiach, c'est lui-même qui nous prendra sans passer par les épreuves. Moi, je pense que ce qu'il veut expliquer ici dans le Zohar, c'est pas seulement les épreuves dans le sens les guerres. Je parle même des épreuves personnelles. Dans le sens qu'on a beaucoup de mal à faire Torah et Mitzvot. Que plus on va avancer vers Mashiach, et plus ça sera difficile de faire Torah et Mitzvot. Pour nous, pour nos enfants. On voit dans l'histoire, que ce que nos parents avaient, ce qui était facile pour nos parents, pour nous, ça devient difficile. Et ce qui est resté facile pour nous, pour nos enfants, ça devient difficile. Et ce qui est facile pour nos enfants, pour leurs enfants, ça sera difficile. Et c'est comme ça, il n'y a pas où aller, c'est comme ça. Ça ne changera pas.
C'est parce qu'il y a des polluants.
Plus on avance, plus il y a des choses. Par exemple, prenons un cas concret. Aujourd'hui, il y a un problème avec la shrita, la viande et tout.
Oui.
Il n'y a pas un risque, justement, quand ça va être difficile, que des gens laissent tomber, abandonnent?
On sera obligé, à un moment ou à un autre, de faire appel à la profondeur de la Torah.
Ce que tu dis, c'est vrai, quand ça va être plus difficile, voilà, déjà, on se parle des complications en Europe avec la shrita.
À la profondeur de la Torah. On sera obligé. On mangera du poulet.
Les mêmes groupes vont faire le métal.
Alors, donc,
ça va être à cheval sur le gâchement.
Alors, en fait, donc, je reprends tout à l'heure ce qu'on a expliqué. Pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de l'arbre de la vie, d'accord? C'est là qu'on va avoir une notion que la Gemara Zaken va devoir expliquer plus tard, parce que là, on va avoir une notion qui est un peu compliquée à comprendre, et que si on la comprend mal, on peut faire une erreur, d'accord? Alors, nous avons trois arbres. On a l'arbre de vie, l'arbre de la vie, l'arbre de la mort et l'arbre des deux en même temps. L'arbre de la mort, c'est quoi? L'arbre de la mort, c'est les averot. Les choses qu'on sait que c'est assourd, c'est interdit. Ça représente les averot. Ça, il n'y a pas où aller, on sait que c'est interdit. L'arbre de la vie et de la mort, c'est de manière générale l'étude de la halakha. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'on va expliquer. Quand une personne étudie la Gemara sans étudier la Kabbalah par derrière, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand une personne étudie que la Gemara, que la halakha, c'est vrai que il étudie la Torah d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est du bien, mais il y a un risque que ça lui amène de l'orgueil. Il y a un risque qu'il le fasse pour lui et pas pour Dieu. On le voit ça, on connaît beaucoup de gens comme ça, qui sont très très forts en Torah, et que niveau midot, niveau comportement, zéro. Pourquoi? On se pose la question, on se dit, mais comment c'est possible?
Non, c'est pas logique.
D'accord, c'est pas possible, il y a un problème. Comment c'est possible? C'est quoi la logique? D'accord? Pas du tout.
Parce que tu te détaches des autres.
Justement, c'est ce que le Zohar répond, il dit, c'est très simple. Il dit parce que, il y a l'arbre de la mort. L'arbre de la mort, c'est une avéra. Une avéra, c'est une avéra, ça, on touche pas à ça. Il y a l'arbre de la vie et de la mort. C'est quoi? C'est toutes les études qui sont de la partie dévoilée de la Torah. Par exemple, l'étude de la Gemara, l'étude de la Halakha. Celui qui étudie que ça, s'il le fait bien, ça va lui amener la vie. Mais c'est écrit que s'il le fait mal, c'est-à-dire s'il étudie la Torah et que ça lui amène l'orgueil et qu'il oublie Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu sur une personne comme ça, il dit celui-là, on aurait mieux fait de renverser la poche dans laquelle le bébé se trouve dans le ventre de la mère. On aurait mieux fait de renverser son placenta dans le ventre de sa mère. C'est très très dur. C'est la Gemara qui dit ça. Pourquoi? Parce que une personne qui étudie pas, c'est une chose. Mais une personne qui utilise la Torah pour écraser les autres et pour s'enorgueillir, c'est très grave pour la Torah. C'est extrêmement grave. Maintenant, écoutez bien ce qui est écrit. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Plus on va avancer dans le temps vers Mashiach, et plus ça sera une épreuve quand on étudie la Torah, d'utiliser ça pour s'enorgueillir sur les autres. Il n'y a pas où aller. D'accord? C'est un fait. C'est-à-dire que, ouvrez vos yeux, regardez autour de vous, vous verrez même chez nous-mêmes, que une personne qui, par exemple, qui a fait une teshuvah, et qui ne veut pas étudier la Kabbalah, obligatoirement, à un certain moment, il va se sentir plus haut que les membres de sa famille qui n'ont pas fait teshuva. Il va presque même venir à leur manquer de respect, à les écraser. Ça arrivera à tous les coups. Ça, c'est l'épreuve de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'avant Mashiach, il y aura l'arbre de la vie et de la mort en même temps. C'est-à-dire, autant c'est la vie, autant c'est la mort. La seule solution pour être sauvé de ça, c'est utiliser l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, c'est la chassidut, c'est le Zohar, c'est la Kabbalah. Pourquoi? Je vais expliquer ce que ça veut dire.
Des arbres qui ont bien étudié.
Attends, tout ce monde, on va expliquer. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Gemara, je vais expliquer ce que ça veut dire que l'arbre de la vie est de la mort et l'autre c'est l'arbre que de la vie. Quand on étudie la Gemara, comment ça se passe dans la Gemara? Il y a des questions et des réponses. On pose une question, on donne une réponse. On pose une question, des fois on trouve la réponse, des fois on trouve pas la réponse. On pose plusieurs questions, on a une réponse. On pose une question, on a plusieurs réponses. Ça dépend des cas. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il y a des questions, il y a des réponses. Quand on étudie le Zohar, écoutez bien, dans le Zohar, il n'y a pas de questions.
Donc il n'y a pas de réponse.
Il n'y a que des affirmations. Et c'est choquant, vous savez, quand on lit un petit peu comme ça, c'est choquant. Tu dis, mais attends, on a l'habitude, surtout nous, on a l'habitude de réfléchir en mode de question-réponse. Et avoir un feedback, tu vois. C'est-à-dire, tu te poses la question, tu dis, ah oui, il y a une question, après la réponse. Le Zohar, c'est pas comme ça. Le Zohar, il te met directement la réponse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi la Gemara? La Gemara, c'est comme une personne qui est dans une pièce obscure, il cherche la porte.
C'est ce qu'a dit ton père.
D'accord? Donc il cherche la porte, donc il va tâtonner. Il touche, d'accord? Mais partout, c'est pas à la porte, donc entre guillemets, c'est du mal. Jusqu'à ce qu'il va finir par arriver à la bonne porte. Ça veut dire que c'est quoi la Gemara? La Gemara, c'est on écarte plusieurs hypothèses qui sont entre guillemets mauvaises. Je reviendrai plus tard parce que est-ce qu'il y a du mauvais dans la Torah? Je reviendrai plus tard dessus. On écarte des hypothèses qui sont mauvaises pour arriver à la bonne hypothèse. Dans le Zohar, c'est pas comme ça. Dans le Zohar, il n'y a pas on écarte le mauvais pour arriver au bon. C'est directement le bon. C'est directement clair. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. C'est directement limpide, c'est directement clair. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous, quand on lit le Zohar, quand on lit le Tanya, est-ce que ça veut dire qu'on comprend, qu'on a cette perfection? Non, je suis pas en train de dire ça. Mais je dis que ça inspire notre Neshama, ça permet à notre Neshama d'avoir une certaine clarté. Parce que, avant Mashiach, on se posera des questions auxquelles on n'arrivera pas forcément à trouver les réponses. Donc on sera obligé de faire appel à la force du Zohar, qui te permet d'avancer, même sans trouver les réponses. Parce qu'on trouvera pas les réponses à toutes les questions. Il fut un temps dans lequel les gens ne se posaient pas de questions. Ça, c'était le top. Aujourd'hui, on se pose des questions. Les gens se posent des questions. On se pose des questions sur la vie, on veut comprendre. Et on ne trouve pas toutes les réponses. Pas surtout on peut donner des réponses. Pas surtout on peut trouver des réponses. Donc
parce qu'on a moins d'émouna.
Non, parce que aujourd'hui on se pose des questions que les gens ne se posaient pas avant. Et pour trouver des réponses à ces questions, il y a des choses que ça arrivera que quand Mashiach arrivera. Donc il y a des gens que d'ici à Mashiach ne pourront pas tenir. Donc on est obligé de faire appel au Zohar, qui lui, le Zohar, nous donne la force de tenir, même sans trouver les réponses. C'est l'arbre de la vie. Comment on va vous inquiéter, on va développer tout ça. Je sais que c'est un peu du charabia. Hein,
tu ne poses pas de questions quand tu le dis.
Il n'y a pas de questions du tout.
Non, mais toi, quand on lit un texte, on est tout dans.
Tu es dans la recherche de la compréhension.
Oui, donc quelque part, on veut voir où ça...
Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Quand on lit le Zohar, on a l'impression qu'on lit un livre d'histoire. Ma parole, hein.
Je crois qu'il y avait plusieurs lectures. D'accord. Sur le Zohar.
Ça veut dire quoi? On te raconte, il y avait Rabbi Intel, Rabbi Intel, il marchait, et ils ont dit ça, et l'autre il a dit ça, et l'autre il a dit ça, et l'autre il a dit ça, et après l'autre il a dit ça, et après l'autre il a dit ça. Fin de citation. Nouvelle citation. Et une autre fois, il y avait un Rabbi Intel qui venait avec un tel, et il est venu chez l'autre, et ils ont mangé ça, et ils ont dit ça. Fin de citation. Et tu passes, et tu lis comme ça se lit comme des, je sais pas, comme des, histoires. comme des histoires, comment on peut traduire ça, comme un.
Des nouvelles, des petites histoires.
Non, vous savez, les jeunes, ils écrivent souvent un. Ils racontent tout ce qu'ils racontent leur vie.
Journal,
voilà. Comme un journal, tu vois, ça se lit comme un journal. Journal de bord. Mais en vérité, un blog, ouais. Twitter, c'est le Twitter. L'Avdil.
C'est faut comprendre.
Ouais. Mais en vérité, c'est beaucoup plus profond. Parce que derrière chaque histoire se cachent des choses, se cachent des secrets profonds. Par exemple, je donne un exemple. Là, par exemple, si on lit cette partie du Zohar qu'on est en train de lire maintenant, il te dit, donc une fois, c'est un rêve qui parle comme ça dans le Zohar. Il dit, avant que Mashiach arrivera, grâce au Zohar, ils s'en sortiront. Ça dure 3-4 lignes, après fin de citation, après on passe à la suite. Alors nous, on est là, on dit, mais attends, de quoi il parle là?
Oui.
Quoi cette histoire?
Ça a l'air simple.
ça a l'air simple, mais ça a l'air aussi
obscur.
On comprend pas ce qu'il raconte. Il m'étonne. Pourquoi tu parles comme ça? Alors regardez, on va continuer maintenant un petit peu dans la suite. Mais encore une fois, il faut pas qu'on s'arrête ici parce que si on va lire seulement ce Zohar là, on pourrait peut-être mal comprendre. Ça pourrait nous donner l'impression, comme il a dit justement très justement tout à l'heure, que il faut tout mettre de côté et se mettre à étudier le Zohar. D'accord. Ça c'est pas pour nous. Ça c'est pour les centres de la Kabbalah à Los Angeles. Comme c'est ce qu'il dit.
Pourquoi ça t'empêche de
devenir parce que la Kabbalah. En fait, très bonne question. Je vais t'expliquer. La réponse est très simple. Vous entendez la question de Joseph, c'est une très bonne question. Joseph pose une question, il dit, en quoi c'est différent l'étude du Zohar et l'étude de la Gemara? Pourquoi l'étude de la Gemara peut m'enorgueillir alors que l'étude du Zohar ne peut pas m'enorgueillir? C'est très simple. Parce que l'étude de la Gemara ne m'inspire pas forcément de l'humilité. Elle m'inspire la compréhension. Maintenant, moi, j'en fais ce que je veux de la compréhension. Soit, grâce à cette compréhension, je réalise l'immensité d'Akadosh Baruch Hu et je comprends que je suis tout petit. Soit, grâce à cette compréhension, je réalise que je connais beaucoup plus que d'autres et donc j'écrase tout le monde. C'est mon problème, c'est mon choix.
À double tranchant.
Alors que dans le Zohar, c'est pas comme ça.
Mais on voit bien que c'est pas comme ça dans la réalité. Il y a combien de rabbins qui n'ont pas étudié ni le Zohar ou
tout le monde étudie le Zohar aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Tout le monde dit, aujourd'hui, ce qu'on a dit, la dernière ligne droite avant Mashiach, on sera obligé. Et ceux qui n'étudient pas, tu le vois tout de suite. Tout de suite. Tu le vois tout de suite.
Bon, je suis largué.
D'accord?
Tu le vois tout de suite.
Le Zohar, c'est le Tania à notre niveau.
Oui, c'est pas pareil. D'accord, mais qui a la notion? Quand tu dis le Zohar, le Tania, c'est peut-être avec le mot, il y a bien des rabbins qui n'étudient pas le Tania.
Et j'étudie autre chose. J'étudie le Zohar, j'étudie Maharal de Prague, j'étudie les choses qui sont basées sur le Zohar. T'es obligé, c'est impossible sinon de tenir.
Est-ce que le Tania, c'est un petit peu une vulgarisation du Zohar ou pas?
C'est pas une vulgarisation. C'est si tu veux, il prend, ça veut dire qu'il prend des notions du Zohar pour nous aider à tenir dans la vie de tous les jours.
Ouais, donc il la ramène au peuple. Donc, c'est vulgarisé.
Tu comprends? Donc ça veut dire, pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que celui qui lirait.
Oui,
je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si on lisait le Zohar tout seul, sans avoir un livre derrière qui t'explique comment tirer un enseignement, alors, on aurait pu avoir une étude qui soit détachée de la réalité. Si on raconte des histoires, on parle des sirotes, c'est très intéressant, mais concrètement, ça change pas que le bonhomme, il peut être le matin en train d'étudier un centre de Kabbalah, les sirotes, etc., et l'après-midi, il est en train de faire des bêtises.
Alors, quelle est la finalité du Zohar?
La finalité du Zohar, en vérité, c'est un avant-goût de Mashiach. C'était seulement l'apanage de certaines personnes. Et c'est une chance que ça commençait par le Harizal. Le Harizal a donné il a reçu une recommandation d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, il faut commencer à mettre ça à la hauteur du public. Ils vont en avoir besoin.
Et il y en a eu qui ont été pour, et d'autres.
Et d'autres qui étaient contre. Ah ouais. C'est sûr, ça.
Mais il y en a qui sont toujours contre.
Non, contre quoi?
Dire, c'est pas le moment. C'est
mais les rabbinim ashkénazes.
Oui, c'est pas l'essence.
Parce que ça dépend ce que tu appelles la Kabbalah. Ça dépend ce que tu appelles la Kabbalah. Aujourd'hui, dans tous les cours de tout le monde, d'accord, tu auras toujours du Tania, du Maharal de Prague, de Rabbi Nachman de Breslev. Bien sûr, c'est de la Kabbalah.
Je peux te dire juste de le lire, même juste de lire, mais si tu comprends pas, il y a l'inverse.
Là, j'ai pas dit ça.
Moi, j'ai entendu.
Oui, mais j'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, ce que je dis, c'est que le but du Tania, c'est d'essayer de prendre des notions de Zohar, de les mettre à notre portée, pour nous aider à tenir dans la vie de tous les jours. Et plus on avancera vers Mashiach, et plus on aura besoin des livres comme ça. C'est inévitable. D'accord? Alors on continue.
Il y en a d'autres?
Il y en a quoi?
Il y en a d'autres plus grands fonds?
Non, des livres comme Tania, des
diacres. D'accord? Alors il dit comme ça. Il dit. Donc, de Iou, Isur, Veter, Touma, Vetahara, Lo, Ishletou, El Israël, Yatir, de A, Parnasadilon, Lo, Leave, Ela, Misitra, De Elena, De Chaye, De Led, Taman, La, Kasha, Misitra, Ahara, Vela, Machloket, Miruach, Atouma. Voilà, donc ça c'est une notion qu'on va devoir développer plus tard. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici que les questions, dans la Gemara a priori, ils viennent des forces du mal. Très bizarre ce qu'on est en train de dire ici. Et que la marloquette, elle vient de l'esprit d'impureté. Ça c'est les mots du Zohar ça. Alors ça, justement, ça c'est l'Admor Hazaken va s'arrêter dessus plus tard. Ah, je vous lis, c'est du Zohar, c'est de l'araméen ça. Ça, on reviendra dessus plus tard. Dirtiv, comme c'est écrit, Ved Ruach Atuma à Virmina Aretz. Dieu, il dit, qu'avant que Mashiach, que quand Mashiach va venir, quand Mashiach arrivera, j'enlèverai l'esprit d'impureté de la terre. C'est quoi l'esprit d'impureté? C'est l'esprit de Machloket. De Machloket.
Donc, voilà. Donc, on se posera plus de questions.
Donc, il y aura plus.
Alors,
donc, on n'aura plus l'ambivalence du choix, du libre arbitre.
Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. J'ai dit que ce sera d'accord. tellement évident que tu n'auras même pas besoin de faire un choix.
D'accord, je comprends. On aura un choix à l'arbre, il n'y a plus besoin du reste.
Plus besoin de chercher le reste.
Ah oui.
Mais ce sera tellement évident, ce sera tellement clair, que tu n'auras pas besoin de chercher autre chose. On est d'accord? Par exemple, je donne un exemple pour illustrer ce que je veux dire. J'ai soif, je vais boire. C'est évident pour moi que si j'ai soif et que je vais boire, bah ça va me calmer, ça va enlever ma soif. C'est évident, j'ai même pas besoin qu'on me l'explique. Pourquoi? Parce que le physique, on le sent. J'ai même pas besoin de me dire, ah, je vais boire de l'eau, ça ira mieux, peut-être oui, peut-être non. C'est évident, je le vis. Et bah quand ma chair va venir, on vivra exactement la même chose avec la Torah. Ça sera des choses évidentes qu'on vivra.
La marque Loquette, elle est née du fait justement que la transmission s'est pas passée comme il fallait.
Alors ça, c'est une autre question.
D'accord.
Là, tu touches à un autre problème qu'on touchera à Bezrat Hashem dans notre troisième cours sur ce Perek. Voilà. C'est une très bonne question. Je répète, je vais essayer de vulgariser la question de Yves. Ça veut dire, sa question finalement, c'est est-ce que ça veut dire que quand il y a une marloquette, ça veut dire que quelque part il y en a un qui a tort?
Non.
C'est ça ce qu'il y a derrière ta question.
Non.
Ça veut dire que il y a un problème, quoi.
J'ai dit que c'était pas aussi clair que le message de Dieu à Moshe.
Voilà. Donc
si c'est aussi clair que le message de Dieu à Moshe, on n'aurait pas eu.
Ça veut dire que pour toi, s'il y a une marloquette, c'est que le message est mal passé.
Il a transmis.
Il est mal transmis.
Il y a eu, voilà.
Quand c'est le téléphone arabe, quoi.
Voilà. Oui. Dans ce goût-là.
C'est Twitter, ce que tu veux.
Ah, Twitter, tu peux remonter à la source, ouais. Twitter, tu retweets.
Téléphone arabe, c'est ça.
Tu parles d'un truc et on répond autre chose. Avec 40 caractères, tu peux foutre toute la dizaine avec Twitter.
D'accord. Donc, Ubizmana dehilana detov shalta inun chachamin de damian le shabbatot viyom tov let lehon elaman de yavin lehon inun chulin ki gavna de yom shabbat de leikle ela mashemitaknin le beyuma dechol. Alors là, on a encore une autre partie cryptée, d'accord. Jusqu'ici, tout était clair. Hein. Bon, je pense que jusqu'ici, tout était clair. On a compris. Mais là, on commence on va avoir une dizaine de lignes comme ça cryptées. Je préfère vous prévenir. D'accord?
Ils ont mis des Zohar?
Non.
Non?
D'accord. C'est pas du Zohar, tu vois?
Quoi?
C'est pas du Zohar?
Ah, c'est du Zohar, ouais.
Bah oui, tu dis que c'est crypté.
Ah, voilà.
C'est crypté l'infime.
Non, non, non. Justement. Mais on va les développer après, hein. Ne t'inquiète pas.
Non, de prime abord, c'est...
D'accord? Ça va être des lignes cryptées, des lignes difficiles à comprendre. Mais on va les expliquer. Première chose bizarre qu'on a dit ici. Pour moi, en tout cas, je vous dis ce qui saute aux yeux, ce qui est bizarre, a priori. Jusqu'à l'on a dit jusqu'à maintenant, bon, ça, on a compris. On a dit que on aura besoin de la force du Zohar pour tenir les épreuves. Bon, ça, d'accord. Grâce à ça, on pourra arriver dignement à Mashiach. Bon, d'accord. Si tu le dis, tu le dis. Mais après, il commence à dire, il dit que dans le Zohar, il n'y a pas de marloquette, et la marloquette, ça vient des forces du mal. Attends, tu parles de la Gemara, là, on parle pas de marloquette de, on parle pas de marloquette de Rechaï, on parle de marloquette de Rabbi. Rabbi Akiva, il dit comme ça, Rabbi Shimon, il dit comme ça. Quoi, il y en a un qui dit la force d'impureté, c'est quoi ces histoires? Premier élément à comprendre. Deuxième élément à comprendre, ça c'est encore plus compliqué. Il dit, tant qu'on est dans une phase dans laquelle l'arbre de la vie et de la mort, l'arbre du bien et du mal, les deux dominent, alors il dit comme ça, il dit finalement, les talmidei chachamim sont comme le Shabbat. Que le Shabbat, tu peux manger seulement ce qui a été préparé la semaine. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut dire, c'est que les talmidei chachamim dépendent du peuple. Et que ce que le peuple fait, c'est ce que les talmidei chachamim peuvent faire. Il dit comme ça, il dit, le peuple, c'est comme la semaine. Un Talmid Chacham, c'est comme le Shabbat. Le Shabbat, qu'est-ce que tu manges? Tu manges ce que tu as préparé la semaine. Si la semaine, t'as pas préparé, tu arrives le Shabbat, tu veux pas manger. Bien que le Shabbat, c'est un jour très important. Eh ben, il dit, c'est comme ça. Il dit, quand on vit en mode Gemara, en mode mal et bien en même temps, d'accord? Même les Talmidei Chachamim, ils n'ont uniquement ce que le peuple veut bien leur donner. Ça veut dire qu'ils sont bridés au niveau du peuple. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Le problème, c'est quoi? C'est que plus on avance vers Mashiach, et plus le niveau du peuple baisse. Donc si même les Talmidei Chachamim sont bridés au niveau du peuple, chlet, comment on va faire? C'est pour ça qu'on est obligé de faire appel à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est le contraire. Exactement le contraire. Qu'est-ce qu'on a dit pour celui qui avait le bien et le mal? On a dit que quand c'est le bien et le mal, on a dit, alors automatiquement, le Shabbat, on peut manger seulement ce qu'il y avait la semaine, ça veut dire que les Talmidei Chachamim sont bridés par rapport au niveau où est le peuple. Quand on étudie la Kabbalah, c'est le contraire. Le Talmid Chacham, il monte, et il arrive à monter vers lui, à son niveau, le peuple. Bien que le peuple ne comprend pas. Vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Bon, ça, on va devoir expliquer.
Le niveau
crypté.
Global augmente.
Ça veut dire qu'on passe à une autre gamme. C'est une autre gamme.
J'ai pas compris crypté. Excuse-moi. J'ai pas compris bridé.
Ça veut dire comme ça. Quand on reste en mode partie dévoilée de la Torah, si c'est une personne qui étudie que la partie dévoilée de la Torah, même si c'est un grand Talmid Chacham, même si c'est un grand sage, un grand érudit, il est bridé au niveau du peuple. C'est-à-dire que si le peuple est bas, lui, il reste bas. Il reste le rabbin du peuple. Ça veut dire le peuple est là, il est là. Le peuple est là, il est là. Le peuple est là, il est là. Il peut pas aller plus haut. Comme le Shabbat. Parce que la Gemara dit qu'un Talmid Chacham, c'est comme le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, tu peux manger seulement ce que tu as préparé la semaine.
Il peut pas aller plus haut dans quoi?
Il peut pas aller plus haut dans son étude, dans son avancement, dans son approche vers Akadosh Baruch Hu. Il est bridé, il est bas, il reste en bas.
Pourquoi? Parce qu'il est
battu. Parce que c'est comme ça. Parce que quand on étudie la partie dévoilée de la Torah, on est limité par rapport au peuple. Alors que la partie dévoilée, la partie cachée de la Torah, elle permet, bon, je vous ai prévenu, j'ai crypté, hein. La partie cachée de la Torah, elle permet aux Talmid et Chachamim de faire monter le peuple à leur niveau. D'accord? Le peuple, c'est nous. C'est-à-dire que maintenant, si un rabbi, il a envie de faire monter sa communauté, si un rabbi, il a envie de faire monter ses chassidim, comment il fait? D'accord? Il est obligé d'étudier avec eux la Kabbalah, ou au moins des notions de Kabbalah. Mais vous savez, il y a beaucoup de lettres dans lesquelles, il y a beaucoup de lettres que j'ai lues, dans lesquelles le rabbi l'a adressé à des rabbanim séfarades. Il leur posait la question. Il leur dit, pourquoi vous n'enseignez pas à vos communautés la Kabbalah? Il dit, pourtant, à vous, on n'a pas besoin d'expliquer qu'il faut enseigner la Kabbalah. Il dit, les Ashkenazim, chez eux, c'était pas connu qu'on étudiait la Kabbalah. Dans le monde séfarade, on a toujours étudié la Kabbalah. Toujours. Ça veut dire que c'était très fréquent qu'on avait des gens, des grands Talmid Chachamim qui habitaient dans des villes, que toute leur force était dans la Kabbalah. Ils étaient très très forts en Kabbalah. Dans le monde ashkénaze, c'était un petit peu pas à la mode. C'est-à-dire celui qui était fort en Kabbalah, mais pas très fort en Lacha, on dit, ah bon, ça c'est un raté, entre guillemets. C'est comme ça que les gens parlaient. Mais dans le monde séfarade, on a toujours eu cette vision de la réalité, de dire qu'une personne qui est versée en Kabbalah, c'est un saint, c'est un kadosh. D'accord? Et donc, ce que le rabbi demandait, j'ai plusieurs lettres que j'ai lues comme ça. Le rabbi demandait à des grands rabbins, et qui l'ont fait. Comme le rav Mordechai Eliyahu, comme le rav Bakshi Doron, des lettres, et des échanges de lettres qui sont imprimées. Donc, ce qu'il leur demandait, de diffuser la Kabbalah à leurs élèves. Bien sûr, il faut la mettre à leur niveau, c'est évident ça. Mais la Kabbalah permet de nous donner des forces que nous-mêmes on comprend pas d'où ça vient. Moi, je peux vous dire une chose que j'ai vue de mes propres yeux. J'ai vu que toutes les personnes qui ont participé au cours de Tania ont changé dans leur vie. Ça, j'ai vu de mes yeux. Ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Pémet. Maintenant, même des gens qui sont venus 1 an, 2 ans, 3 ans et qui m'ont dit, que des fois, des moments où ils étaient honnêtes avec moi, ils m'ont dit, tu sais, je dis honnêtement, je comprends pas grand chose. Et moi, je suis pas vexé. Et bon, parce que peut-être, il pense qu'il va me dire. Moi, je suis pas vexé. Pourquoi je suis pas vexé? Parce que je sais que c'est pas le but du Tania. Si on voulait faire un truc qu'on comprend, on aurait fait de la Gemara, on aurait fait. Ça, c'est pas le but. Bien sûr qu'on essaie de comprendre ce qu'on peut. Et ben, au Hachem, bon, je pense qu'avec le temps, on comprend. Ça finit par rentrer dans la tête.
Et Tania, mais... ça veut dire enseigner.
Tania, c'est l'enseignement, ouais. Je pense que le meilleur indicateur pour savoir si c'est rentré dans la tête, c'est voir est-ce que notre comportement a changé. Si notre comportement a changé, si on voit qu'on a plus de facilité à contrer son Yetzer Hara, si on voit qu'on a plus de facilité à avancer dans la vie, à faire face aux problèmes de la vie, ça veut dire qu'on a avancé, ça veut dire qu'on a tout compris. Ne vous faites pas d'illusions, ça c'est des choses qu'on ne peut pas obtenir en étudiant une page de Gemara. J'étudie beaucoup de Gemara par jour, tous les jours. Mais je peux vous dire que ces choses-là, on ne les obtient pas dans la Gemara. C'est pas possible, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie dévoilée de la Torah, il y a la partie cachée de la Torah. Aujourd'hui, on est obligé, à Kadosh Baruch Hu nous a dévoilé les parties cachées de la Torah, c'est une chance qu'il nous a donnée pour nous aider à tenir le coup aujourd'hui. Pas seulement extérieurement, même intérieurement. Parce que être cachère extérieurement, c'est facile. Mais être cachère intérieurement quand personne te regarde, c'est très difficile. Pour être cachère intérieurement, d'accord, entre toi et Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, t'es obligé de passer par la Chassidut, par le Zohar, par la Kabbalah. Sinon, on ne tient pas la route. Et ça, c'est le Zohar lui-même qui le dit. Voilà. Alors maintenant, on va continuer un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il peut
rentrer?
Que certains ont...
C'est-à-dire,
jamais...
Non.
Perso, non, c'est pas le but.
Par rapport à ce qu'il a fait la semaine tirote, tu peux manger par rapport à ce qu'il a fait par rapport à la semaine. Ça, c'est une alakha.
Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de voir comment eux ont compris. Mais le texte même, on ne comprend pas.
On ne peut pas monter au-delà du niveau. Mais ils ne sont pas sur ça.
Oui.
Ça se limite pas.
C'est un peu, ça veut dire le rôle de ces Chachamim a été, je pense, de deux choses. D'abord, ils ont essayé de vulgariser, entre guillemets, le Zohar pour le rendre plus accessible au public. Ça, c'est numéro un. Mais numéro deux, encore plus fort, c'est qu'ils ont essayé de prendre le Zohar et d'en faire un mode de vie. Ça veut dire de tirer des enseignements. Pas simplement un livre d'histoire. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est de la philosophie.
D'accord ?
C'est pas de l'histoire.
Oui.
C'est de
la philosophie. Donc, prendre maintenant un livre comme ça et essayer d'en faire une manière de vivre, une manière de regarder les choses. Parce que, finalement, le Zohar, quand tu lis le Zohar, ça parle que des Sphirot, Reset, Gvorat, Tiferet, etc. Bon, c'est des trucs intéressants, mais c'est pas des trucs qui vont changer
là,
ta vie.
Là, on comprend rien.
D'accord ? C'est abstrait, ça change pas ta vie. Donc après, il faut utiliser ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut de moi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il arrive, plus on s'approchera de Mashiach, et plus ça sera un chemin inévitable. On sera tous obligés de passer par là. D'accord ? Tous obligés de passer par là.
Quelle partie de la Torah en fait mention du Zohar ?
Il y a été le mot Zohar, jamais. D'accord ?
Non, mais au moins cet aspect.
Ben Nassau.
La Gemara, on parle de ça.
La Gemara,
bien sûr.
Ben, il a dit
Gemara, elle parle. Il y avait quelques maîtres. Par exemple, on sait que le maître Rava de la Gemara, on sait que c'est un maître qui était extrêmement versé dans la partie profonde de la Torah. Mais il n'en a jamais parlé. Pourquoi ? Parce que, ça on le verra dans le deuxième cours, mais c'est un chemin qu'on fera. À l'époque de la Gemara, on n'avait pas le droit de parler de notions de Kabbalah en public. Ça veut dire que quand on commençait à parler, on s'assurait que toutes les portes étaient fermées, que la personne qui est en face de toi est une personne qui a déjà étudié toute la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un très solide. D'accord ? Là, c'est à l'époque. Qu'il y a un très solide. D'accord ? Et que c'est une personne qui te. On fait signer, comme ils disent en Amérique, un NDA, c'est-à-dire un document que. D'accord ? Clause de confidentialité.
Et c'est. Il y a rien qui sort.
Et dès qu'il y en a un qui essaie de faire le malin, il mourrait.
Voilà,
c'est
ça. Ah oui ? Ou il devenait fou.
Par exemple, regardez. Quand on vous dit, par exemple, dans la Gemara, qu'il y a quatre personnes qui sont entrées dans le Pardès.
C'est quoi le Pardès ?
Le Pardès, le fameux jardin de la Torah. De quoi on parle ? C'est la Kabbalah. D'accord ? Et on dit, il y a trois qui sont sortis fous. D'accord ? Un, il a complètement tout lâché, l'autre, il a fait, bon, il y a trois qui sont sortis fous. Un, il est sorti bien, c'est qui ? C'est Rabbi Akiva. Nirtas Beshalom, Yatsa Beshalom. Ça veut dire que c'est des choses que, par exemple, quand on parle de Imar Shemo, le père du christianisme. D'accord ? Comment il a fait tout ça ? C'est avec le Zohar, avec le sens profond de la Torah. C'est pas avec la Gemara. La Gemara, on l'étudie, il n'y a pas des potions magiques dans la Gemara. Comment il a fait? Parce qu'avec le sens profond de la Torah, parce qu'avec le sens profond de la Torah, ça nous permet de voir le fond des choses. Et quand tu maîtrises le fond des choses, quand tu maîtrises le rouage de la machine, tu fais ce que tu veux avec la machine. Quand j'ai une machine qui est fermée devant moi, je peux rien faire avec. Mais si je maîtrise les rouages de la machine à l'intérieur, j'en fais ce que je veux.
Ah, mais ça peut rendre fou, même. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à fréquenter des juifs religieux il y a longtemps.
Ah, c'est pour ça.
Non, j'allais à Saunier, parce que je travaillais dans le coin. Il y avait un garçon, bon, qui était bizarre. Et on m'avait dit, ça m'a marqué, on m'a dit, parce qu'il a étudié la Kabbale et ça l'a rendu fou.
Ah oui, c'est vrai.
Il a dit, bonhomme, le pauvre, il parlait tout seul et tout. Quoi,
la Kabbale brute.
Avec un type avec la barbe et tout, quoi. Pas, et il, quand on faisait la mitaille, il était ma boule.
Bon, est-ce que c'est ça ce qui l'a rendu fou ou est-ce qu'il était déjà fou?
Non, c'est ça ce qui m'a fait. Des gens qui le connaissaient avant.
Ça, c'est pour nous écarter.
Il s'appelait Claude Bismuth.
Ah, ok. Alors. Alors, on va se. Qu'on en faisait mention, oui. On a fait mention dans quelques. On sait qu'il y a beaucoup de maîtres qui étaient, par exemple, Maïmonides. Il y a quelques allusions qu'on trouve dans lesquelles on comprend, il laisse penser qu'il était versé en Kabbalah. Et pourtant, lui-même. Non, c'est pas la Kabbalah. Non. Et pourtant, lui-même, dans d'autres lettres, il dit des mots très durs sur la Kabbalah. Il dit, faut pas étudier ça, c'est interdit, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, à la limite, on allait même jusqu'à dire au peuple que c'était pas bien, pour être sûr qu'il touche pas à ça.
Ouais, c'était.
Bon, ça a changé. Depuis le Harizal, ça a changé. Il faut dire merci au Harizal.
On leur a dit aussi que ça rendait fou.
Quoi ?
Au peuple.
Le Rambam, il y a des lettres dans lesquelles il dit, ne touchez pas à ça, vous allez devenir renégat dans la Torah. Enfin, des mots très très durs. Alors que lui-même, aujourd'hui, maintenant qu'on a ouvert le Zohar, on sait qu'il y a des endroits dans lesquels il y a des nuances que la seule source qu'on peut trouver à ce qu'il a dit, c'est le Zohar. Parce que le moment n'était pas arrivé. Ils avaient l'interdiction formelle du ciel de dévoiler. Assour. Le premier qui a eu le réchoute, c'est pas seulement le réchoute, il a eu l'obligation de le dévoiler, c'était le Harizal. Alors on y va maintenant. Donc, Adkan, Berayam et Mana. Oui.
Pardon, puisque vas-y. Tu parles du Harizal, quand il a été dans cette démarche, justement de dévoiler par obligation,
oui.
Ses contemporains, comment ils ont réagi ? C'est pas évident.
Il y a beaucoup qui étaient contre lui. D'abord, le Harizal, ça s'est passé très vite. Le Harizal, jusqu'à 34 ans, il était inconnu du public.
C'était quelle époque, cela ?
D'accord ?
Il y a 700,
il y a 400, combien c'est le bâtiment?
Avant 17 ans, avant
1700. 400, ça fait pas très longtemps, d'accord? 480, je crois, quelque chose comme ça.
Harizal, donc.
Le, écoutez cette histoire, d'accord? Le Harizal, d'accord? Il a vécu jusqu'à 34 ans, il était inconnu du public. Personne ne le connaissait. À l'âge de 34 ans, il est parti à Tzfat, dans la ville des Mekoubalim. Et il était chez son maître. Son maître, c'était le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, d'accord, quand il est arrivé, il a étudié un petit peu chez Rabbi Moshe Cordovero et il est Niftar. Rabbi Moshe Cordovero est Niftar.
Il est d'Espagne.
D'accord ? Donc il est Niftar. Et les kabbalistes, dans les quelques mois que le Harizal était là-bas, ont compris que le Harizal est dépassé de très très loin. Donc ils ont dit, tu vas être notre Rosh Yeshiva, Yeshiva de Mekoubalim. Ils l'ont mis. D'accord ? Il était Rosh Yeshiva pendant un an et demi à peu près. Il est mort à 36 ans. Il est Niftar à 36 ans. Donc, 36 ans.
6 mois,
ça veut dire qu'en l'espace de un an et demi, un peu plus d'un an et demi, toute la journée, il n'arrêtait pas de déballer des divrei Torah, divrei Torah, divrei Torah, divrei Torah, divrei Torah. On dirait qu'il devait aller une course contre le temps. Et il y avait son élève principal, il avait beaucoup d'élèves, son élève principal qui était Rabbi Chaim Vital, qui essayait de prendre des notes. Il ne pouvait pas tout retranscrire, il n'avait pas le temps. Il a essayé de prendre des notes. Et lui-même, il a témoigné. Il a dit, ce que j'ai entendu pendant un an et demi, même si je prenais toute ma vie pour écrire ce que je me rappelle, j'aurais pas assez de temps. D'accord ?
C'est dommage qu'il n'y ait pas l'enregistrement.
C'est pas l'enregistrement. C'était concentré.
Mais pour les retranscrire.
D'accord ? C'est inévitable. Parce que sans le Harizal, c'est la porte d'accès pour comprendre ce que le Zohar dit. Tous les autres, jusqu'à même Rabbi Moshe Cordovero, c'était pas basé sur le Zohar. C'était des commentaires perso, qu'on sait qu'ils sont basés sur le Zohar, mais c'était pas autour du Zohar. Le Harizal, c'est le premier à prendre le Zohar et l'attaquer. Et donc, grâce au Harizal, d'accord, grâce à ça aujourd'hui, on peut avoir accès au Zohar. Et le Harizal, une des dernières choses qu'il a dit à son élève Rabbi Chaim Vital avant de partir, il lui a dit, tu vas retranscrire tout ça, et dorénavant, progressivement, il faudra mettre ça au niveau du public. Et donc après, on a eu beaucoup de livres qui sont venus avec le temps dans les générations. Et chaque génération essaie de descendre, de mettre plus au niveau du public. Et ça, c'est parce que le Harizal savait que plus on allait avancer dans le temps, et plus on allait avoir besoin de ça pour survivre dans la période qui sera avant Mashiach.
Et plus on est plus.
On est moins religieux. Oui, c'est la réalité. Hein, c'est... Ok. Alors, ça, c'est les mots du Zohar. Là, pour l'instant, on n'a rien. Ça, c'est pas le Tania, ça, c'est le Zohar. Ça. Alors, maintenant, on va sauter quelques lignes. Il dit Atkan Vrayman. Je prends la page 284. Vehine. Là maintenant, je vais remettre en cause tout ce que je viens de dire.
J'adore.
J'adore. Il y avait dit qu'il n'y avait pas de traduction, c'était fluide.
Dans le sens, quand je dis je vais remettre en cause tout ce que je vais dire, ça veut dire que, avec ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, franchement, tu sors d'ici, tu dis, t'as envie de dire, ben moi je vais étudier que 10 heures toute la journée. Et le reste, bon, ben on fera le strict minimum. Le problème, c'est qu'on va amener aujourd'hui, dans la suite de ce texte, plein de preuves contraires, qui vont nous montrer exactement le contraire, qu'au contraire, le Zohar n'a pas le droit d'y toucher, et il faut y toucher seulement après beaucoup de préparation, exactement le contraire de ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et vu le temps qui nous reste, on va rester dans les questions. Mais c'est pas grave. On continuera la semaine prochaine. D'accord ? Oui, mais dans le sens, t'as toujours un endroit dans lequel tu vas mettre toute ta vie. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu obtiens quand tu étudies la Gemara ?
Extraordinaire.
Il y a un mode de vie. Ah oui, tu obtiens un mode de vie ?
Parce que c'est le Shulchan Aruch.
C'est le Shulchan Aruch qui donne le mode de vie. Shulchan Aruch, tu peux l'étudier en une semaine, tu connais toutes les lois, tu sais ce qu'il faut faire. Non, je parle du Kittour déjà. Qu'est-ce que tu as besoin d'étudier la Gemara ? Parce que je vais être un peu cru. Qu'est-ce que tu as besoin d'étudier la Gemara pour étudier une Machloket qui a pendant 5 pages ? D'accord ? Avec 6 avis, pour qu'à la fin, tu sais qu'en vérité, aujourd'hui, on ne suit qu'un seul avis. Alors, à quoi sert d'étudier 5 avis qu'on ne fait pas ? Donc, au niveau technique, ça ne sert à rien. La quoi ? Pourquoi ? J'ai compris.
Donc, de mode de vie, mais
tu sais, avant de faire des avions, comment on a fait avant les avions ? Dans quoi on volait avant ? Quand ils ont commencé, les frères, comment ils s'appellent, les frères, hein, avec quoi ils ont volé? Hein, comment ils s'appelaient ce qu'ils ont fait là? Un hydravion, c'est ça? Bah, puisque ça commençait par là, on aurait, nous aussi, maintenant, on devrait dire, on va voler dans ça aussi. Ça y est, c'est fini, c'est dépassé. Oui. C'est pas que ça. J'ai compris. Donc, toi, tu dis, on l'étudie parce qu'un jour, ça a une utilité. C'est beaucoup plus que ça. Si on s'arrête, rabotaille, on va essayer de se concentrer. Il se vit pas en lui-même. D'accord. Alors on va essayer de développer. Rabotaï. Si on arrêtait le cours seulement à ce qu'on a étudié ici, la conclusion qu'on aurait eue, c'est que finalement, si tu veux être dans la bonne ligue, d'accord, si tu vas dans la bonne ligue, il faut passer au Zohar, d'accord. La Ligue des Champions, tu veux la Ligue des Champions, il faut passer au Zohar, d'accord.
Voilà, c'est... Non, si tu fais que le Zohar, comment je peux savoir comment il faut comment...
Alors tu étudieras sur un arour.
Voilà, donc il faut étudier quand même sur un arour.
Bien sûr, ça. Mais le temps qu'on passe pour la Gemara, le temps qu'on passe pour tout le reste, on aurait pu penser que non. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va prouver exactement le contraire maintenant. Et donc là maintenant, vérité dans ce cours maintenant, la suite du cours jusqu'à la fin, on va dire exactement le contraire. Et la semaine prochaine, il nous faudra au moins un cours entier pour essayer de faire la balance entre les deux. D'accord? C'est très compliqué. Ne croyez pas que c'est très compliqué. C'est des questions sur lesquelles, en vérité, c'est une grande chorma ce qu'a fait ici l'Admor HaZaken, parce que c'est une question sur laquelle il y a eu des dizaines de livres qui ont été écrits. Vous allez voir la grande chorma qu'il va avoir l'Admor HaZaken, comment il va réussir à concilier les deux. Parce que ça, sur ça, il y a eu des dizaines de livres qui ont été écrits que sur cette question. Alors, Vehine. Amuvan, Meashkafa, Rishona, Lichora. De premier abord, quand on lit ce Zohar qu'on a dit ici, Milashon Zehamahamar, Lachasere Mada. Les gens qui sont en manque de compréhension, c'est-à-dire des gens qui vont lire à premier abord et que des gens comme nous, quoi, c'est-à-dire qui n'ont pas toute la Torah devant eux, qui lisent, tu leur amènes un Zohar avec la traduction. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Chez Limoud, Isour, Ve'eter, Ve'seler, Taharot, ou Meilana de Tov Vera. C'est-à-dire, t'es en train de leur dire que l'étude de toutes les lois, de ce qui est permis, de ce qui est interdit, avec les marloquettes, ce qui est pur, ce qui est impur, ça vient de l'arbre qui est de l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire que toutes les marloquettes, ça vient du mal. C'est ce qu'on a compris, ce qu'on a dit ici. C'est très grave de dire ça. Milvad, Chehou Pele Gadol Mechamat Atzmo.
On a pas dit ça.
On a dit clairement. Clairement. Noir sur blanc.
Mais parce qu'on peut le rendre en mal.
Non. Ça, c'est autre chose que je dis. Il a dit clairement, il a dit que la marloquette, ça vient du mal. Non. D'accord? La marloquette, ça vient de la Touma. Les questions, ça vient de Sitra Hara. D'accord? De l'autre côté. Hein, comme le côté, le bon côté, le mauvais côté. Et donc, c'était clair. C'est très grave ce qu'on est en train de dire ici. Il dit, mais attends, Milvachu, Pele Gadol, Mechamat Atzmo. Avant même de rentrer dans les preuves, on va amener des preuves contraires, mais avant même de rentrer dans les preuves. Déjà, c'est quelque chose qui est étonnant en soi. Comment tu peux parler comme ça? On parle
surtout
pas
de... que les deux sont dans le même but.
C'est bien de... sûr. C'est de... En plus, c'est les Talmid Chachamim. En plus, n'oubliez pas que très souvent, les auteurs dans le Zohar et les auteurs de la Gemara, c'est les mêmes noms. Mais tu les vois, tu compares ce qu'ils ont écrit dans le Zohar et ce qu'ils ont écrit dans la Gemara, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, tu peux pas venir me dire que le gars qui l'a écrit dans la Gemara, alors qu'il a écrit aussi dans le Zohar, là-bas dans la Gemara, c'était de l'impureté. Doucement, on parle de la Torah, là, on parle pas de n'importe quoi. Donc, déjà, c'est étonnant en soi. Mais en plus, Vesoter, Pshate Aktuvim, ou Midrashim Avotenu Zichronel Vracha. Ça va à l'encontre de plusieurs dizaines, plusieurs milliers de Midrashim, de nos Chachamim, qui disent à plusieurs reprises, Shekol la Torah Anikletlanul Vanenu, c'est écrit clairement que toute la Torah, bien sûr, la Torah dévoilée, la Halacha, le Shulchan Aruch, la Gemara, la Mishnah, le Chumash, Nikra Etzraim la Machazikimba. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la Torah, c'est Etzraim la Machazikimba, c'est un arbre de vie. On n'a pas dit c'est un arbre de vie et de mort. La Torah, c'est un arbre de vie, ça amène la vie. Ou bifrat. D'accord? Vélo, c'est faire à Zohar Levat, pas que le Zohar. De quel droit tu parles comme ça? Ça veut dire que si on suit ça pour l'instant, normalement, un rabbin, ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû prendre le Zohar et il déchire. Il dit, maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises-là? D'où on sort ça? D'abord, c'est étonnant, mais en plus, on n'a jamais vu ça. Les Midrashim nous ont toujours dit que la Torah, très important d'étudier la Torah, c'est un arbre de vie. Ou bifrat, surtout que. Shehaya Ganous Bimehem. À l'époque des maîtres de la Gemara, le Zohar était Ganous. Il était caché. Vegam. Et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, Kol Chochmat HaKabbalah Aita Nistera Bimehem. Toute la Chochma de la Kabbalah était cachée à l'époque des Chachamim de la Gemara. Ça fait 2000 ans. Venelma Mikol Talmid HaChachamim. Et sur toute la masse des Talmid HaChachamim qu'on a dans la Gemara, combien savait le Zohar? Combien savait même qu'il existait? Très très peu. Ici, il dit très simple, il dit Yechide Zgula. Yéridé, ça veut dire des gens uniques. Et ces goûts-là, c'était vraiment des gens triés sur le volet. Que quelques personnes qui savaient. D'accord? Ve'av gamzot, comme on l'a dit tout à l'heure, même ça, be'atzni alechet. On avait l'obligation de le faire en cachette. Ve'lo barabim, et pas en public. Qui est d'Aïta Bigmara, comme c'est écrit dans la Gemara. Kumoshe Kotev Arizal, comme le Arizal écrit. De Davka, Bedorot, Acharonim, Mutar ou Mitzvah, les Galotes, Zotachorma. Que c'est particulièrement dans les dernières générations, donc depuis l'époque du Arizal, que là, on a le droit et on doit développer la Chorma de la Kabbalah. Velo, Bedorot, Arishonim. Mais pas dans les générations d'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si on suit ce Zohar ici, ça veut dire qu'on est en train de dire que tout ce qu'on a fait avant le Arizal, tous les milliers de Chachamim, d'accord, qui ont étudié, qui connaissaient pas le Zohar, parce qu'ils n'étaient pas initiés pour ça. C'était des grands Talmud de Chachamim, on a des livres d'eux. T'es en train de dire qu'il y avait une partie Touma, une partie de Gdusha. C'est quoi cette histoire? D'où on sort ça? C'est n'importe quoi. Donc, c'est clair qu'on a raté quelque chose. On a mal compris quelque chose. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec la question? Vegam Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar Bezor HaKadosh. Voilà, maintenant par Rabbi Shimon Bar Yochai. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question, il a dit, qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit sur le Zohar? Là, on l'a ici. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit lui-même sur le, dans le Zohar, Shelo Nitan Reshut Le Galot, Raklo Velachavero, Velachaverav Levadam. Rabbi Shimon Bar Yochai fait un témoignage personnel dans lequel il dit, du ciel, je n'ai eu la permission de dévoiler le Zohar seulement à moi et à mes amis. À moi, c'est-à-dire que Dieu m'a dévoilé à moi. D'accord? Alors quand on dit mes amis, attention doucement, mes amis, on les appelait la Chevraya. D'accord? Chevraya, c'est l'équipe. VIP. Donc, c'était une équipe.
Ça fonctionne comme une secte.
Un petit peu, oui. C'était des gens qui se rencontraient tous les quelques jours, d'accord, et qui s'échangeaient les dernières informations du ciel. Et ils n'avaient pas le droit, de rajouter personne dans le club. C'était un club privé.
Fermé.
L'eau nitan reshoot.
Il n'y a plus de carte.
D'accord. L'eau nitan reshoot, ça veut dire il n'y a pas la permission. Ouais, nombre limité de personnes qui avaient accès à ça.
Une confrérie secrète.
C'était, ça veut dire qu'en vérité, le but, la seule raison pour laquelle il fallait avoir des talmid chamim qui étudient ça, c'était seulement pour que on garde la tradition. Pour que dans toutes les générations, il y a au moins quelques personnes qui le savent. Une personne, ça suffit pas. Il fallait en général entre 30, 40 personnes dans le monde. D'accord? Oui. 30, 40 personnes, mais tzadikim cachés. D'accord?
Je suis d'accord, mais bon, ils sont pas très loin, ils sont en groupe.
Les tzadikim cachés.
Et comment ils se retrouvent s'ils sont cachés?
Ils ont une carte
gauche. Ben, ils sont cachés, c'est pour ça que vous voulez savoir.
La même méthode qui les fait communiquer avec le ciel, elle les fait communiquer entre eux.
Ils avaient leur propre intérêt.
Vous savez, on raconte que une fois, il y a un des élèves du Baal Shem Tov qui est venu en Eretz Israël. Le Baal Shem Tov, il voulait beaucoup aller en Eretz Israël. Et donc, un des élèves du Baal Shem Tov qui est revenu en Eretz Israël. Et il arrive là-bas, il demande qui est le grand tzadik. Il cherche le grand tzadik local. On lui dit le grand tzadik, c'est le Or HaChaim HaKadosh. Alors, il va voir le Or HaChaim HaKadosh. Et il lui dit, il voulait savoir est-ce que le Or HaChaim HaKadosh connaissait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il s'est dit, mon rabbi, c'est un grand rabbi et j'aimerais que le Or HaChaim le connaisse. Alors il lui dit, est-ce que vous connaissez un tzadik qui s'appelait Rabbi Israël? Alors Rachaïm réfléchit, il dit Rabbi Israël? Non, je connais pas. Bon. Alors il réfléchit, il discute en Torah, il lui dit, est-ce que vous connaissez un rabbi qui s'appelle Baal Shem Tov? Alors Rachaïm dit, non, je connais pas. Et l'autre, il est dégoûté, il dit, quoi, mon rabbi, on le connaît pas, moi je croyais que mon rabbi, tout le monde le connaît dans le ciel, ils doivent se connaître. Après, il fait un dernier essai, il dit, est-ce que vous connaissez Rabbi Israël Baal Shem Tov? Alors Chaim, les yeux s'éclairent, il dit, ah, Rabbi Israël Baal Shem Tov, je le vois tous les jours en haut. Oui. Attendez, c'est pas fini. Alors, il est très content, il est tout content que le Chaim a reconnu son maître. Et il lui dit, est-ce que vous avez un message à faire passer à mon maître? Alors il lui dit, oui, bien sûr. D'accord, il lui dit, je crois qu'il a dit le message que, dis-lui qu'il est le bienvenu ici, en d'autres termes, il voulait qu'il vienne en Eretz Israël. D'accord. Alors, il retourne chez le Baal Shem Tov, donc c'est les voyages de plusieurs mois, tout ça. Il retourne chez le Baal Shem Tov, et après le Baal Shem Tov, il est très impressionné, donc des chidushim qu'on lui a répété au nom du Or HaChaim HaKadosh, et il dit, je me pose la question, est-ce qu'on est dans le même niveau ou pas? Est-ce qu'on peut communiquer ensemble ou pas? Alors, il lui dit, écoute, tu vas lui poser la question au Or HaChaim HaKadosh, est-ce qu'on est au même niveau? Moi, j'arrive pas à voir. Est-ce qu'on peut communiquer? C'est comme le programme informatique, il faut qu'il soit compatible. Alors il lui dit, j'ai pas de problème, Rabbi, je vous posais la question. Il va chez le Or HaChaim HaKadosh, donc il fait son retour là-bas pour s'installer définitivement, et il pose la question au Or HaChaim HaKadosh. Il lui dit, voilà, Rabbi, mon maître voulait savoir, est-ce qu'il est au même niveau que lui? Alors il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit ton maître? Quand il me voit, d'accord, comment il me voit quand il me voit dans le ciel? Alors il m'a dit qu'il voit que vos pieds. D'accord? Les pieds du Or HaChaim. Il lui dit, si vous voyez que mes pieds, ça veut dire que, ça veut dire qu'en vérité, on peut pas communiquer ensemble, on peut pas être au même niveau. Il a dit, je vais t'expliquer. Et après, le Baal Shem Tov lui-même a témoigné ça dans ses livres. Il a dit, partout où je vais, quand je veux rencontrer le Or Haïm, on me dit qu'il vient de passer par là, il est déjà en haut. Ils sont ratés comme ça. Mais attendez, c'est pas fini. Le Baal Shem Tov, il avait la Emouna, il savait que s'il arrivait à rencontrer le Or Haïm à Kadosh, ensemble, ils pouvaient amener Mashiach. Il y avait une telle force ensemble qu'ils auraient pu amener Mashiach. Il a tout fait pour aller en Eretz Israël. Il est parti.
Ouais, mais...
D'accord? Il est parti. Il a eu toutes les galères possibles et inimaginables sur la route. Des bateaux qui sont renversés. Il oublie sa mémoire. Il oublie tout. À un moment, il est dans le chemin. Il oublie tout. Même à l'Evbet. Rien. D'accord? Un autre moment, il se retrouve, on le traite de voleur. On le traite de pirate. Il se retrouve sans vêtements. Des galères, mais un truc inimaginable. D'accord? Et à un certain moment, quand il arrive à Istanbul, donc Istanbul, c'est déjà pas mal dans le chemin, quand il arrive à Istanbul, il a reçu une consigne directe de Dieu, Dieu lui dit, c'est pas pour maintenant, retourne.
Demi-tour. Ça aurait dû être
un très bon scénario. Il a compris que je t'envoyais, t'as pas
compris. Il a voulu forcer, Baal Shem Tov. D'accord? Donc, en tout cas.
Aller le voir.
C'est l'histoire de Tzadikim, ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que même des maîtres comme Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Même des maîtres comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était uniquement pour les initiés. La Kabbalah, c'était que pour les initiés. V'av gamzot plia nisgava. Rabbi, je finis avec ça. Delphise, lo haya limud isur ve'eter, v'chol sheken dine mamonot, lo hayu dochim zetfila. Chinit Kenal, Pisodot, Azor, Vichodi, Melionim, il dit c'est très simple. Là, je finis avec la dernière question, ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Il dit, la tfila qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous savez que la tfila qu'on a aujourd'hui, elle est en grande partie basée sur le Zohar? La structure de la tfila qu'on a aujourd'hui, à la base, la tfila, comment c'était à l'époque? C'était Shema, Amida, basta. Vous prenez la Gemara, pour ceux qui ont étudié la Gemara Brachot, quand on parle de la tfila, Shema, Amida, peut-être une petite bracha avant, une petite bracha après, c'est tout. Toute la tefila qu'on a aujourd'hui, d'accord?
La mise en condition.
Et toute la tefila qu'on a aujourd'hui, tous les mizmorim qu'on donne, lequel mizmorim choisit, lequel avant, lequel après, c'est basé sur le Zohar. D'accord? On a écouté la question, une question, ça c'est pour moi la question la plus forte. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, on le retrouve dans la Gemara aussi. C'est-à-dire très souvent, il y a des litiges financiers, par exemple, des litiges financiers qui sont réglés par Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand vous lisez dans la Mishnah, Rabbi Shimon tout court, c'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai témoigne dans la Gemara qu'il y avait des moments dans lesquels ils étaient tellement occupés par l'étude de la Torah, comme ils étaient à un stade que la Torah était leur travail, c'est-à-dire qu'ils avaient toute la tête dans la Torah, ils étaient exemptés de la tefila. Il y a même un avis qui pense, c'est l'avis de Rabbi Shimon, qu'on verra plus tard, qui dit qu'ils étaient même exemptés du schéma. Et il dit, c'est arrivé des fois que pendant un mois entier, on faisait pas la tefila. Qu'est-ce qu'on étudiait à la base? Pas le Zohar. Ils étudiaient la Gemara. C'est pour ça que Rabbi Shimon, c'est un des chachamim les plus fréquents dans la Mishnah. Rabbi Shimon, c'est. Tu prends les noms qui reviennent le plus, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il dit, je comprends pas. Tu viens de me dire tout à l'heure que le Zohar qui écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, on est d'accord, il te dit que le Zohar c'est l'arbre de vie et le reste c'est arbre de vie et de mort, ça veut dire que toutes les questions ça vient de l'impureté. Mais il dit, mais je comprends pas. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il passait des mois entiers sans faire cette fila, sans étudier quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il étudiait? Il étudiait seulement la Gemara. Comment c'est possible? Je veux dire, pas seulement ça. C'est encore une autre question. Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait qu'il était caché dans la grotte pendant 13 ans. Quand il est sorti de la grotte, sur chaque chose qu'on lui disait au Beit HaMidrash, il posait 24 questions. 24. Alors Rabbi Pinchas, il lui a dit, mais d'où tu sors, t'as 24 questions? Et il lui a dit, bah tu sais, quand j'étais dans la grotte, ça m'a amené une telle perception que maintenant, sur chaque sujet que tu me donnes, je te pose au minimum 24 questions. Et c'était un scoop, quoi. C'était quelque chose de bien. Il dit, mais tu viens de me dire que les questions, ça vient de l'impureté. Et Rabbi Shimon se faisait un point d'honneur de dire que sur chaque chose que tu me dis, je pose 24 questions. Mais si c'est de l'impureté, en quoi c'est un honneur de poser des questions? Donc quand on voit tout ça, on comprend qu'en vérité, on n'a pas compris le Zohar. La partie Zohar, le fait que le Zohar est important pour la fin des temps, ça on l'a bien comprise. Mais on a mal compris la balance, d'accord, et l'équilibre qu'il doit avoir entre le Zohar d'un côté et de l'autre côté la Gemara et la Halakha.
À quel point tu vas trouver entre les deux, mais c'est incompatible.
Là, pour l'instant, c'est complètement incompatible.
Je sais pas quel pont.
D'accord? Là, il n'y a pas de, pas seulement qu'il n'y a pas de pont. C'est un, il te dit, moi je suis le meilleur, moi c'est l'arbre de vie, l'autre c'est l'impureté parce qu'il y a des questions. Et l'autre te dit, tu sais, c'est le même auteur, hein, Rabbi Shimon, les deux. L'autre il dit, quand je suis sorti de la grotte, chaque sujet, 24 questions. quoi, synagogue, poser des questions. Donc ça veut dire qu'en vérité, le but de ce cours d'aujourd'hui, ce qu'on essaie de comprendre, on essaie de comprendre finalement comment garder un équilibre entre, d'un côté, l'aspect technique de la Torah, Gemara, Mishnah, Halakha, qui est très important, et de l'autre côté, l'aspect Zohar. C'est très compliqué à garder un équilibre entre les deux. Ça veut dire qu'en général, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça, c'est la semaine prochaine, on va rentrer plus dans les détails. En général, les gens qui sont plus versés dans l'aspect technique de la Torah ne supportent pas les gens qui sont dans l'aspect ésotérique. Ça veut dire que quelqu'un qui est plus versé dans la Gemara, la Halakha, etc., dès que tu commences à lui dire, tu sais, c'est expliqué comme ça dans Tania, Hassilut, Kabbalah, il dit, oh, prends pas la tête avec ta Kabbalah, moi, ma Gemara. Et d'un autre côté, les gens qui sont versés dans la Kabbalah, en général, qui sont versés dans le Zohar, c'est-à-dire dans l'aspect profond des choses, dès qu'on commence à rentrer trop dans les petits détails, ça n'a pas le droit, ça n'a pas le droit, ils supportent pas, ça les angoisse. C'est, comme tu as bien dit, tu as dit, a priori, c'est deux mondes complètement contradictoires. Mais complètement, ça veut dire que non, tu mets les deux personnes dans la même pièce, ils peuvent pas s'entendre. C'est impossible qu'ils s'entendent. Un, il veut démonter la machine, l'autre, il veut utiliser la machine. Un, imagine-toi, tu as une voiture devant toi. Un, il veut démonter la voiture pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'autre, il veut rouler avec la voiture. Il en a rien à faire de la démonter. C'est pas possible. Soit tu la démontes, soit tu roules.
Tu commences un peu à rouler, c'est bon.
Ah. Celui qui démonte, il peut pas rouler. Celui qui roule, il peut pas démonter. Celui qui veut étudier que la halakha, il veut rouler. Celui qui veut étudier que le zohar, il veut démonter. Comment tu mets les deux en même temps? Comment tu peux marier ces deux mondes en même temps? Ça, pour ça, il nous faut au moins un cours. Et on étudiera ça à Bezrat Hashem lundi prochain. Voilà, c'est un preview pour la semaine prochaine.
Allez. Il a fait un kiff, il va démonter.
Ouais. Comment marier les deux? C'est très compliqué. Sur cette question-là, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits.
Il a roulé, il a profité, et maintenant il va...
Parce que même la question va se poser pour nous. La question va se poser pour nous. Comment on doit équilibrer notre étude?
Un cours Zohar.
Très compliqué, parce que c'est très compliqué à marier les deux.
Alors, un cours sur un sujet, un seul et même sujet, sur le même sujet, un sujet X, on fait un cours Gemara, et le même sujet X, on fait un
D'accord, mais on a vu maintenant que, entre le Zohar et la Gemara, d'un côté, dans la Gemara, on a vu que poser des questions, c'est bien, et ça vient de la Kedusha. D'un autre côté, dans le Zohar, on voit que les questions, ça vient de la Touma. Voilà.
On n'a pas compris ce que ça veut dire, ça vient de la Touma, les questions.
Ça veut dire que le fait que tu te poses une question, ça veut dire que ça vient du Yetzirah, ça vient de l'impureté. C'est pas normal de se poser une question. C'est ce qu'il dit le Zohar.
Qu'est-ce que tu appelles par question?
Pourtant, dans la Gemara, il n'y a que ça.
Se remettre en cause, c'est une question?
Poser une question. On te dit quelque chose, te donne une halakha, tu poses une question. Tu dis, mais pourquoi c'est comme ça? A priori, si on comprend texto ce que le Zohar a dit, le Zohar a dit, tu poses une question? Comment tu poses une question? C'est écrit dans la Torah. Si tu poses une question, c'est que c'est l'impureté. Ah, c'est le Zohar.
Je te pose la question.
Tu prends la Gemara, c'est un honneur de poser des questions. Oui, alors, comment tu maries les deux?
Se remettre en question, c'est une question? Parce que quand tu prends les deux Zohar, tu dis, ah mince, c'était exactement ce que je suis pas, donc il se remet en cause, donc il,
a priori, Zohar, si on suit le Zohar, le fait de se remettre en question, ça vient d'impureté.
Voilà, c'est ça.
Alors que dans la Gemara, c'est exactement le contraire.
Oui, mais c'est par le
dans
Zohar.
Dans la Gemara, une personne qui se remet pas en question, on se pose des questions sur lui.
Mais c'est par le Zohar que je me mets en question.
Ça veut dire, quand tu dis la Gemara et que t'as une Mishnah sur laquelle t'as que deux, trois lignes de Gemara, tu dis, il y a un truc, c'est pas possible, c'est pas normal. Il faut poser des questions.
D'accord, mais quand je me mets en question, c'est grâce au Zohar que je me suis remis en question. Donc, à cause du Zohar, j'ai fait
pas bon,
mal.
C'est bon, c'est pas bon. On va voir tout ça. On va développer tout ça. Pas trois
ans
qu'il
nous faut là. C'est vraiment cours.
Alors, à quand les cours de Zohar?
Écoutez, moi, je pense que quand on pose bien la question, quand on se pose les bonnes questions, on peut trouver facilement les bonnes réponses. Il faut bien comprendre la question d'abord. Bon, quand on positionne bien la question, après la réponse arrive facilement.
Je veux savoir en quoi il a changé depuis que j'ai dit Daniel.
Il y a des heures traduites de nos jours ou pas?
Ça sert à rien.
Pourquoi ça sert à rien?
Ça sert à rien de lire les heures traduites.
Ah ouais, je sais pourquoi il a changé.
Tu comprendras pas.
Il a évolué dans l'iPhone. Tous les ans, il a nouveau.
Ah, donc, faire avec quelqu'un qui a étudié les heures.
Parce que c'est mal traduit.
Non!